soir, je t'invite au restaurant en amoureux.
Oh, est-ce que tu crois qu'on peut prendre l'apéritif à la maison? C'est que c'est la rediffusion de la JT du local.
Je n'ai pas toujours su à quel endroit je voulais poser mes valises. Je n'ai d'ailleurs toujours aucune certitude. Pour l'instant, je suis là et demain, on verra bien. Et d'ailleurs, si je suis ici, c'est que j'ai quelque chose à y faire, ça a du sens. Mes invités d'aujourd'hui ont certainement des bagages bien solides parce qu'ils les ouvrent et les referment régulièrement. Avec moi en studio, Wilfried Sarrazin et Julien Poultier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les nomades soignants, vous sillonnez la France en camping-car et vous êtes donc actuellement en Mayenne, plus précisément à Saint-Denis-de-Gâtine. On parlera ensemble dans quelques instants de votre histoire. À mes côtés également, Lucie. Bonjour à toi, Lucie.
Bonjour.
Amis auditeurs, nous sommes le lundi 22 janvier et aujourd'hui, je vais également vous parler de la table ronde qui a eu lieu vendredi dernier à Laval. Le collectif d'associations Colédis souhaitait échanger et témoigner auprès des Mayennais de l'impact que pourrait avoir la loi immigration en Mayenne et partout en France, et ainsi montrer l'importance du travail que font ces associations au quotidien sur le terrain, notamment en termes d'intégration. La JT du local se terminera avec la chronique de la Ligue des droits de l'homme en compagnie d'Alain Voisin. Vous faites appeler donc les nomades soignants Wilfried Sarrazin et Julien Poultier. Je le disais tout à l'heure, vous parcourez la France pour rejoindre les établissements en manque de personnel. Vous vous êtes installé à Saint-Denis-de-Gâtine et vous avez rejoint l'équipe de l'EHPAD Bellevue. Et vous y serez donc jusqu'à mi-avril, c'est bien ça?
C'est bien ça, nous sommes arrivés le 8 janvier à l'EHPAD Bellevue à Saint-Denis-de-Gâtine. Et nous y serons jusqu'au mi-avril.
Et alors, qu'est-ce qu'il se passe quand, pour vous, avant d'arriver à ce moment où on charge les affaires dans un camping-car pour parcourir la France, non pas pour des vacances, mais pour apporter votre soutien dans les déserts médicaux? À quel moment ça commence, ce projet-là?
Alors, notre projet, il a commencé donc, en le septembre 2021. Donc, on a rendu les clés de l'appartement, on a rempli le camping-car et bah, là, on a mis le contact et on est parti sur les routes.
Donc l'idée de départ, c'était de pas forcément de rejoindre les déserts médicaux. Pour l'instant, c'était à ce moment-là, c'était plus de...
Au début, la priorité, c'était plus en fait de trouver du travail, parce qu'en fait, on a eu un petit peu de mal à en trouver par rapport... des soignants qui vivent en camping-car, c'est pas quelque chose de commun. Donc on a eu quand même des refus. Et
Des préjugés en fait sur ce mode de vie.
Il y avait un peu de préjugés, voilà, un peu des clichés. Vous êtes des gens du voyage, non, pas du tout. Vous êtes des anarchistes, non plus. Enfin, il y avait un peu des représentations, un peu gênantes. Et du coup, on a pris un peu peur. Et puis, en remontant en Picardie, on a contacté le journal de notre région, et puis qui ont fait un article qui de là a tout lancé. L'article a permis en fait à des employeurs de nous contacter, puis en fait ils ont vu notre crédibilité.
Voilà, vous avez pu présenter en fait le projet derrière tout ça, ce qui vous portait.
C'est ça.
Et alors donc aujourd'hui, le projet notamment de rejoindre les déserts médicaux, donc des structures en manque de personnel. Comment est-ce que vous gérez émotionnellement le fait d'être témoin des conséquences directes des déserts médicaux? En quoi ça alimente peut-être votre engagement?
Alors en fait, c'est que, bon, comme on dit, l'accès aux soins déjà en ville, c'est assez déjà, par exemple, compliqué de base pour trouver un médecin généraliste, par exemple. Et quand on va plus dans les campagnes un peu plus reculées dans certaines régions, là, on se dit, alors dans les EHPAD, les personnes âgées, c'est un peu plus difficile pour elles. Et du coup, nous, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va plus porter notre attention sur ce public. Et on s'est dit, il y avait un manque de personnel et du coup, on a fait le choix de plus privilégier ces campagnes et aussi ces campagnes, et ça serait, c'est plus pertinent en fait pour nous d'être auprès du public âgé.
Et donc vous restez à environ à chaque fois quelques mois dans une structure, vous êtes mis un peu ce rythme là
c'est ça?
Alors oui, en général on reste environ 3 mois dans chaque structure, et pour en fait pouvoir satisfaire un peu plus les structures un petit peu partout en France, quoi.
Et donc, quel accueil on vous réserve quand vous arrivez avec ce projet-là dans une structure?
Bah, au début, enfin, les gens sont contents qu'on arrive. Hein. Après, il y a pas mal d'interrogations. Bon, c'est vrai qu'on a tout, on répond souvent aux mêmes questions. Pourquoi vous avez fait changement de vie? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Après, on entend beaucoup, ah, moi, ça, je pourrais pas le faire. Je ferais ça à la retraite ou des choses comme ça. Mais nous, comme on leur dit, non, en fait, nous, c'est pas notre philosophie. Nous, en fait, la vie, c'est là, c'est maintenant. Et comme on dit, à la retraite, on sera dans quel état? Je veux dire physiquement, psychiquement, comment on sera. Donc en fait, nous, on vit notre vie au jour le jour, comme on dit. On profite des instants présents. Et comme ça, en fait, on n'aura pas de regrets si un jour on doit arrêter ce projet pour X raisons.
Et donc, on en parlait tout à l'heure hors antenne. On a souvent un petit peu l'image rêvée de la van life, comme on peut. Et voilà, c'est pas dans le concret. Dans le concret, c'est pas exactement comme ça tous les jours de votre expérience.
Pas du tout. Nous, comme on dit, c'est vrai que les belles photos, les belles vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ça, c'est vraiment des instants de capture à un moment donné. Nous, ça fait 3 ans et honnêtement, on vit des très beaux moments. Hein. Mais c'est pas rose tous les jours. Hein. Faut pas croire qu'on ouvre la fenêtre et puis on a une belle plage, une belle montagne, ou voilà, c'est pas forcément ça. Et puis voilà, quand on vit dans un véhicule, il y a d'autres contraintes à gérer, enfin comme dans une maison, hein. Mais c'est, ouais, non, c'est, faut pas trop se fier à ce qu'on voit sur les réseaux, non.
Et donc vous intervenez donc dans différentes structures, dans différentes régions, vous rencontrez du personnel soignant à chaque fois différent. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire des conditions de travail du personnel soignant en France aujourd'hui? Parce que vous devez entendre énormément d'histoires, de témoignages sur les conditions de travail du personnel soignant.
Ben, on a beaucoup rencontré de gens, alors beaucoup de reconversions professionnelles, beaucoup de burn-out aussi. Après, comme on dit, le personnel soignant, ben, il fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Voilà, c'est ça, malheureusement, on a fait toutes les structures qu'on a fait, ils travaillent tous plus ou moins à flux tendu. Les directions essayent de compenser en recrutant du personnel, en faisant appel à des intérims. Enfin, ils essayent de trouver des solutions. Après, comme on dit, nous, on arrive, bon, on n'est que deux. Hein, on va pallier pendant un moment donné à un manque d'effectifs. Et nous, après, ce qu'on se rend compte surtout, c'est que, en fait, dans les EHPAD, en fait, ce qui fait peur aussi, c'est le public âgé fait peur et n'attire pas. En fait, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a plus trop de vocation, en fait, dans ce métier. Si vous voulez faire être soignant, infirmier ou autre, en fait, faut pas dire je vais faire ça parce que ça recrute. En fait, non, il y a d'autres valeurs à côté à faire. Voilà, c'est des métiers humains. Oui, c'est sûr, vous n'allez pas être millionnaire dans ces métiers-là, hein, ça c'est clair. Mais après, si vous avez des valeurs à défendre, il faut le faire.
Mais, parce que vous, notamment dans le soin et dans l'accompagnement à la personne, dans les valeurs que vous portez, vous insistez sur le fait que il faut du temps, il faut du contact, c'est nécessaire.
C'est ça. En fait, comme on dit, nous les aides-soignants, souvent on a souvent cette image vous lavez des gens toute la journée. Non. On ne fait pas que ça. Ça, c'est une partie de notre travail. Après, comme on dit, il y a toute cette dimension psychosocio-culturelle autour de la personne. Et ça, c'est à prendre en compte et ce qui fait que les soins se passent au mieux, quoi. Je veux dire, nous, quand on rentre dans une chambre, on ne voit pas une maladie, une pathologie. Enfin, voilà, on voit une personne avec un vécu, avec une histoire, qui a des attentes, qui a des envies, qui a des désirs, plus ou moins à court ou moyen terme. Voilà, en EHPAD, hein, ils ne vont pas non plus... vivre 50 ans comme ça, mais il y a une échéance, mais je veux dire, c'est pour ça qu'on essaie d'accompagner au mieux et que la personne se sente le mieux. C'est pour ça que dans les EHPAD qu'on fait, quand on voit qu'il y a beaucoup d'animation, il y a des PASA qui sont mis en place, donc c'est des pôles d'activité de soins d'accompagnement personnalisés pour des personnes en petits groupes, il y a beaucoup de sorties qui sont faites comme là où on est à Saint-Denis-de-Gâtine, enfin, l'animation c'est top au niveau des résidents. Et c'est ça en fait qu'on veut montrer aussi, que les EHPAD, en fait, non, on ne dépose pas une personne âgée et elle attend la mort. Cette image-là, il faut se l'enlever de la tête. Je veux dire, il y a de la vie dans les EHPAD. Venez dans les EHPAD et vous allez voir que oui, ça a beaucoup changé.
Le personnel, en fait, cherche à dynamiser, à créer cette vie dont vous parlez. En préparant cet échange, qu'on a aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on parle quand même énormément donc du personnel soignant qui est un petit peu qui a aujourd'hui un manque de considération. Et on parle énormément aussi beaucoup d'isolement et de solitude pour les personnes âgées. Ne pas considérer le personnel soignant, ça raconte aussi quelque chose de la considération peut-être que l'on porte au vieillissement aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ça ?
Après, c'est vrai que, enfin, la personne, enfin, quand, voilà, on va pas se mentir, la personne âgée peut se retrouver isolée, exclue. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est pour ça que, ben, dans les EHPAD, on essaye de redynamiser tout ça, de refaire du lien social, d'ouvrir les EHPAD, en fait. Voilà, les EHPAD, vous pouvez y rentrer, hein, c'est pas un lieu fermé, hein, je veux dire, vous pouvez être bénévole, participer avec des activités, proposer des choses, et c'est ça en fait que les personnes attendent en fait. Je veux dire, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, il y a quelques années, on avait encore cette image de la personne âgée qui attendait derrière sa fenêtre dans son fauteuil, voilà, hein, mais non, ça c'est, il faut s'enlever de la tête en fait.
D'ailleurs, c'est... vous mettez également en avant le retour de l'intergénérationnel, oui, dans les EHPAD. On en a parlé ensemble hors antenne, du fait que voilà, le retour des enfants dans les EHPAD et ce lien qui se crée, vous valorisez énormément ça.
C'est ça.
Ben... Alors c'est vrai que oui, de plus en plus, il y a des crèches, il y a des écoles qui viennent pour pouvoir faire des activités en fait, avec les personnes âgées, les enfants. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes âgées qu'aiment s'occuper des enfants, et c'est vrai qu'on les voit sourire, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand on voit ça.
Et donc, pour revenir à votre projet, ce parcours que vous faites dans la France, c'est aussi une manière de sensibiliser justement sur l'importance du personnel soignant et sur valoriser un petit peu tout le travail qui est fait dans nos structures médicales.
Alors oui, c'est vrai qu'on aime valoriser, puis supporter, puis aider les structures un peu comme on peut, quoi. Et puis avec notre vécu, ce qu'on voit dans différentes structures, on peut dire on a vu ça, c'était pas mal, est-ce qu'on peut essayer comme ça. Et il y a des structures, ils sont totalement ouvertes et au changement, et c'est vrai que ça fait plaisir. Et on essaye quand même d'amener notre petite pierre.
Et puis de communiquer, votre voyage, je pense, fait parler, c'est atypique, mais c'est original et intéressant. J'ai envie de parler peut-être un petit peu maintenant de votre avenir. Est-ce que vous envisagez ce mode de vie sur le long terme ? Peut-être quelles sont vos prochaines destinations après Saint-Denis-de-Gâtine ?
Alors, après, on va normalement à Château-Gontier, et ensuite, on part en Isère, pour un autre contrat. Et là, c'est vrai qu'on est complet jusqu'à avril 2025.
Après, on a d'autres contrats qui ont été proposés. Mais comme je vous disais hors antenne, c'est... Après, nous, on ne peut pas trop se projeter au-delà, quoi. Mais sinon, on a des contrats prévus au Pays Basque et dans les Pyrénées. Donc ça, on reverra. Ils nous recontacteront plus dans l'année pour voir au niveau de leurs effectifs, quoi.
Et un événement en particulier donc, est prévu en juin. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelques mots là-dessus ?
Alors, c'est le 21, 22, 23 juin donc 2024, on fait un événement donc, de véhicules de loisirs à Lassay-les-Châteaux. Pour tout ce qui est les vannes, les fourgons, les camping-cars. On fait visiter un petit peu Lassay-les-Châteaux. Ça se passe donc au château Bois-Thibault. Et on fait donc, il y a tout un programme de programmer, on va dire.
Et on aura différents partenaires avec nous pour les camping-cars. Est-ce qu'ils connaissent ? Bon, il y aura le groupe, le réseau France Passion. Nous, on aura Butagaz qui sera avec nous, qui nous accompagne aussi au quotidien.
Rapido.
Et sûrement l'entreprise Rapido de Mayenne. Voilà, et il y aura différentes activités de proposer pendant ces trois jours.
Un repas dansant et puis plein d'autres surprises. Voilà.
Une occasion de vous rencontrer, de découvrir justement le mode de vie en camping-car. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Julien et Wilfried. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci
à vous aussi, oui.
On peut vous suivre. J'ai quand même envie de rappeler qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu votre parcours, les rencontres que vous faites, les beaux paysages que vous fréquentez malgré tout.
C'est ça, sur Instagram, les nomades soignants.
Merci à vous, merci d'avoir été
merci
avec nous. Dans quelques instants, Lucie, tu nous fais écouter l'actu en bref. Mais tout de suite, on cherche un peu nos mots. Elle nous aide à les trouver. C'est Zao de Sagazan et son titre « Langage ».
J'apprendrai à parler ta langue, à lire dans tes yeux, à entendre les cris, tes cris silencieux. Laisse-moi le temps et la chance de comprendre ton langage, de comprendre pourquoi tu répètes qu'il n'est pas sage de tomber amoureuse de toi. Laisse-moi le temps de l'apprendre. Ce temps est précieux. Ne juge pas si vite. Je fais de mon mieux. Et quand tu partiras, sans raison ni pourquoi, te prendre ou te la tendre la main, courir ou attendre demain, je ne sais pas. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Commence ces actus en bref avec un petit moment de fierté. La Miss Excellence Pays de la Loire 2023, qui a été couronnée le 20 janvier dernier au Lude, s'appelle Élie Potier et est originaire de notre beau département. Avant de passer à la suite, un point santé, le virus de la grippe a dépassé le stade épidémique dans les Pays de la Loire, selon l'ARS. L'Agence régionale de santé insiste sur l'importance des gestes barrières, indique que le vaccin contre la grippe est encore possible et indique également qu'il est possible de joindre un médecin de garde en appelant le 116-117 les soirs après 20h, les week-ends et les jours fériés. Allez, on fait un petit tour à Laval à présent. Demain soir à l'Espace Mayenne à 19h, vous pourrez assister à la soirée Mayenne au fond des yeux. Le département vous propose à cette occasion la découverte de la richesse historique et culturelle du département à travers des archives. Et puis, peut-être que vous connaissez InfoJeunes Laval, lieu d'accueil, d'information et d'accompagnement ouvert à tous les jeunes, gratuitement et sans rendez-vous. Si je vous en parle, c'est qu'à partir du 24 janvier, jusqu'au 6 mars, InfoJeunes Laval se déplace dans les quartiers lavallois pour effectuer des permanences Parcoursup afin de pouvoir aider et accompagner les jeunes et leurs parents dans les choix d'orientation. La première permanence aura lieu à la maison de quartier des Fourches de 15h30 à 19h le 24 janvier. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez contacter InfoJeunes Laval au 02 43 49 86 55 ou à infojeunes@laval.fr. Allez, si on se fait une rétrospective sur le week-end à présent, vous allez voir qu'il s'est passé plein de choses. Pour commencer, la Maison de l'Europe a fêté ses 30 ans samedi dernier, le 20 janvier. Ce n'étaient pas les seuls à faire la fête puisque le Stade Lavallois affrontait Nantes en fin d'après-midi et a remporté le match avec 1-0. Il y a eu aussi les Nuits de la Lecture samedi soir et à Entrammes c'était soirée pyjama, littéralement, puisque les jeunes de 4 à 8 ans étaient invités avec leurs parents et sans oublier le plus important, leur doudou. Avant ça, toujours samedi, décidément, à Ernée, un cyclocross interrégional était organisé par le Cycloclub Ernéen et a accueilli plus d'une centaine de compétiteurs, une réussite pour les organisateurs. Bon, et puis pour rester dans les sujets de l'émission qui vont suivre, dimanche on est un peu plus sage, mais il y a quand même eu quelques 600 personnes qui ont marché pour protester contre la loi immigration à Laval.
Allez, aujourd'hui, ça y est, pour la météo, il refait presque beau et même presque chaud. Bon, Louisa n'est pas d'accord avec moi parce que n'exagérons rien, entre 9 degrés à Lehors et 12 degrés à Cullen-Saint-Go cet après-midi, on n'est pas sur des températures estivales. Et puis c'est bien gentil, mais les éclaircies qu'on a ce matin ne vont pas durer longtemps. Le ciel va de nouveau se voiler en fin de journée et même devenir très nuageux dans le nord du département. Et puis demain, c'est reparti, il va pleuvoir à peu près toute la journée sur à peu près tout le département. Louisa, ça ne la réjouit pas trop, mais au moins elle sait que ça ne servira à rien de passer 45 minutes à se lisser les cheveux si c'est pour qu'il boucle dès qu'elle montera sur son vélo. Côté température, par contre, ça se stabilise un peu, entre 8 et 10 degrés le matin et jusqu'à 12 voire 14 degrés dans le sud du département, et ça tiendra même jusqu'à la nuit. Le vent sera lui aussi de la partie, il a réveillé Louisa toute la nuit et demain il soufflera à une trentaine de kilomètres heure avec des rafales allant jusqu'à une cinquantaine de kilomètres heure. Bon, avec tout ça, je crois que Louisa, elle va opter pour un chignon demain.
Une loi votée qui semble bien indigeste, ça s'est passé ce vendredi 19 janvier à Laval. Le collectif d'entraide et d'innovation sociale Colédis a organisé une table ronde pour regrouper le témoignage de plusieurs associations du territoire qui accueillent et accompagnent des personnes et des familles issues de l'immigration. L'objectif était d'évoquer la loi immigration et les difficultés, notamment de précarité et d'isolement, qu'elle risque d'accentuer, ainsi que d'appeler à la mobilisation. Notre micro a été tendu aux personnes sur place.
Fabienne Hélin, bénévole à la Maison solidaire du Bourgneuf. Cette loi immigration ne va faire que de précariser encore plus les personnes migrantes qui ont déjà beaucoup de mal à pouvoir survivre avec toutes les portes fermées déjà qu'on leur ferme. Cette loi, elle est absolument aberrante. Elle va couper les vivres aux étrangers, elle va plus leur permettre de vivre dignement. Et on est absolument contre cette loi. Cette loi ne doit pas exister. On doit pouvoir laisser les personnes qui ont fait tout ce trajet et qui sont arrivées là, pas par plaisir. Pour certains, un peu par hasard, hein, ils ne savaient même pas qu'ils partaient pour l'Europe. Nous, on accueille des jeunes mineurs isolés, considérés non mineurs par l'aide sociale à l'enfance de la Mayenne. Et donc, ils se retrouvent à la rue, on les accueille et ils ont une grande envie de pouvoir finalement travailler. Ils se forment à l'école et toute cette loi ne va faire que renforcer leur précarité, les empêcher de pouvoir vivre dignement dans ce pays qu'est la France. Dans les jeunes qu'on accompagne, nous, sur la Maison solidaire du Bourgneuf, tous sont en formation pour préparer des diplômes de métiers en tension, hein, chaudronnerie, maçonnerie, aide à la personne. Certains, enfin même beaucoup, ont des contrats d'apprentissage. On leur propose des contrats d'apprentissage ou un travail qui ne peut pas aboutir du fait qu'ils n'ont pas les papiers, le droit par la préfecture de pouvoir travailler. On a des exemples de jeunes qui ont pu avoir leur droit au travail. Enfin, c'était assez extraordinaire quand ils nous racontent ça, que finalement ils passaient Noël avec son patron, un jeune qui était en peinture. Le patron, l'accueillait à Noël. C'est vraiment assez extraordinaire tout ce qui peut se passer quand on leur permet et qu'on ne leur enlève pas tout cet accès au droit du travail notamment. Nous, dans les jeunes qu'on a pu accueillir, certains ne savaient pas qu'ils partaient pour l'Europe. Ils ont tous vécu un grand drame. Hein, quand ils commencent à avoir confiance et qu'ils peuvent nous parler de leur voyage, c'est affreux, hein, tout ce qu'ils ont vécu. On ne peut pas s'imaginer, hein, tellement c'est horrible. Hein, ils ont été des esclaves pendant leur voyage, ils ont vécu des tortures, ils ont vécu des choses atroces. Donc ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver de toute façon. Enfin, moi, je connais particulièrement les jeunes, hein, les jeunes mineurs isolés. Ils ont été embarqués pour certains. Et puis ils arrivent là. Et ce qui est affreux, c'est que quand ils nous rencontrent, nous, les associations, ils ont un ancrage. Et puis, ils s'accrochent, c'est normal. Et puis, c'est pas toujours possible pour eux de pouvoir continuer ici. Et ça, c'est fort dommage, quoi.
Florian Berco, maire de Laval et président de Laval Agglomération, était présent, ainsi que Guillaume Garraud, député de la première circonscription de la Mayenne. Il s'exprime sur la loi immigration.
La honte. Je considère que cette loi, elle contrevient au principe de notre République. On est une république où le mot fraternité, il est inscrit au fronton. Hein, c'est une des valeurs, un des piliers de la République. Et là, on a une loi qui, d'abord, exclura du bénéfice des allocations familiales des étrangers qui travaillent, qui cotisent et qui devront attendre 2 ans et demi avant de toucher des allocations familiales. Vous imaginez donc la vie de la famille. Hein, c'est la même chose pour l'allocation de rentrée scolaire. Hein, c'est ça concrètement. Une loi qui également interdira l'hébergement d'urgence à des étrangers sans papier, frappés d'OQTF, et qui pourront du coup rester à la rue ou qui seront jetés à la rue. C'est ça qu'il y a dans la loi. Et donc, j'ai voté contre cette loi, heureusement, mais je me dis, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Comment on a pu en arriver là ? Comment celui qui, Emmanuel Macron, nous avait dit qu'il ferait barrage à Marine Le Pen, en vient-il à reprendre les idées les plus nauséabondes de l'extrême droite, avec cette préférence nationale qui irrigue tout le texte ? Vous savez, c'est pas un problème droite-gauche, à mon avis. Franchement, hein, c'est une certaine idée de la France et une certaine idée de la République.
Alain Vigné, vous faites partie de la Ligue des droits de l'homme de Laval. Combien est-ce qu'il y avait de personnes présentes ce soir ?
Nous avons dû rassembler, je pense, une bonne centaine de participants à cette rencontre autour des croisements des témoignages des associations qui accompagnent les migrants, les accueillent, les accompagnent et défendent leurs droits. En Mayenne. Je crois qu'il faut que tout le monde prenne bien conscience de ce qui vient de se passer avec le vote de cette loi, qui est quelque chose d'extrêmement grave par rapport aux fondamentaux même de ce qu'est notre République. L'introduction de la préférence nationale dans la loi est le franchissement d'une ligne rouge. Et il est clair que d'une façon ou de l'autre, une mobilisation est bien enclenchée et se poursuivra et prendra de l'ampleur pour que c'est revenir sur ces affaires-là qui trahit en quelque sorte tout ce qui fait ce qu'est notre République à l'heure actuelle.
Dans 2 minutes, c'est le moment de notre chronique du jour. On écoutera Alain Voisin de la Ligue des droits de l'homme. Mais avant, Lucie, tu nous aides à démarrer la semaine en douceur, on dirait.
Et oui, vous avez peut-être commencé à le comprendre, chers auditeurs. J'aime bien le jazz et en particulier la scène contemporaine. Alors du coup, je vous propose d'entamer ce lundi avec le titre Jukebox du londonien Youssef Tayes. We'll be right back.
Il s'engage, il nous parle de l'actualité. Vous avez entendu Alain Vigné s'exprimer dans notre reportage à l'instant. Et c'est un autre Alain aujourd'hui qui présente la Ligue, qui représente la Ligue des droits de l'homme de Laval. Une période difficile, mais une chronique humaniste. Bonjour Alain Voisin, une grande journée pour les valeurs de la République hier.
Oui, nous avons vécu hier un moment important de rassemblement pour les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Cette journée répond à un appel de 201 personnalités d'opinion, d'engagement, de responsabilités diverses, et aussi d'artistes et d'intellectuels. En cela, ce rassemblement est en lui-même un événement important, et pour les militants politiques, les syndicalistes, les membres d'associations que j'ai rencontrés hier, dans la marche à Laval, ce rassemblement, de par sa diversité et de par sa volonté de défendre avec vigueur l'égalité, l'égalité des droits pour tous, à l'inverse de ce qui est dans la loi immigration donc, cette diversité et cette volonté s'expriment dans un refus des idées d'extrême droite qui ont largement inspiré la loi immigration.
Mais la loi immigration n'est pas promulguée ?
Alors oui, c'est vrai, la loi n'est pas promulguée, le Conseil constitutionnel va se prononcer, sans doute en fin de semaine. Mais d'abord, il faut dire que la loi est considérée par l'extrême droite comme une victoire idéologique. Et puis, le président de la République a le pouvoir de ne pas promulguer la loi. Il est toujours possible de remettre tout à plat. Et s'il faut une loi immigration, c'est une loi qui donne des droits égaux pour tous, car déjà aujourd'hui, la plupart des migrants sont dans des situations indignes, de misère et de précarité extrême, ou encore ils sont exploités parce qu'ils sont sans papier. Alors, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, il restera nécessaire d'agir pour les droits des étrangers. Hier, le mot d'ordre qui rassemblait des centaines de milliers de manifestants en France, c'est la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. L'égalité de droit. Oui, l'égalité de droit. Il y a encore beaucoup à faire pour que les inégalités qui explosent en même temps que la pauvreté se répand partout.
Un combat pour l'égalité alors ?
Oui, un combat pour l'égalité, et c'est une question aujourd'hui en France, mais c'est aussi une question dans nombreux pays, que cette explosion des inégalités, et avec cela, liée à cela, la relégation des plus faibles, en particulier des migrants, dans une situation de grande pauvreté. Et la relégation d'une partie de la population dans la grande pauvreté est une rupture de l'égalité. Agir pour l'égalité, c'est agir pour les droits égaux pour tous, pour des droits à la protection sociale, des droits au travail identiques pour tous. Aujourd'hui, les migrants sont massivement mis dans une situation de non-droit, ils sont sans papier. Et pourtant, ils veulent travailler, ils ont besoin de travailler. Leur situation de sans-papier les rend vulnérables et exploités dans des conditions souvent très indigne, il faut donc organiser la solidarité et l'action pour qu'ils sortent de cette situation de non-droit. Et cela parce que c'est l'intérêt de tous. Être solidaire avec les plus faibles, c'est agir pour l'égalité sociale et pour le bien de chacun. La relégation de femmes et d'hommes, parce que étrangers, dans des conditions de travail et d'emploi hors du droit commun, pèse sur la situation sociale de tous, Français et étrangers. Le combat pour l'égalité des droits, un combat solidaire, Français et étrangers, est ainsi le plus fort moyen pour lutter contre les fauteurs de division et de haine qui, à l'extrême droite, ont inspiré la loi contestée par les manifestants hier. Autrement dit, hier, nous manifestions contre la loi immigration et nous affirmions notre combat pour l'égalité des droits.
Et les droits de l'homme ?
Oui, les droits de l'homme. Oui, le texte de l'appel des 201 fait référence au Conseil national de la Résistance. et renvoie donc à cette période de l'après-guerre où, après les horreurs de la guerre, les nations se sont accordées sur des principes forts, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été actée le 10 décembre 1948. Alors, les droits de l'homme sont souvent invoqués, mais en connaissons-nous bien toute la portée, tout le contenu, tout l'esprit, y compris ce qu'elle comprend en termes de droits égaux pour tous et de droits sociaux. Par exemple, et par expérience, quand nous invitons, nous, LDH, à en faire la lecture, et j'en ai fait expérience récemment avec des jeunes, c'est souvent une découverte. Alors pour terminer cette chronique, j'invite les auditeurs à lire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous la trouverez facilement. Elle est disponible, en particulier en bonne place, sur le site internet de la Ligue des droits de l'homme de Laval.
Merci Alain. L'AJT, c'est fini pour aujourd'hui. À 19h, c'est Solénoïde sur les ondes de l'autre radio.
Et Solénoïde, c'est de la musique cinématographique, planante et ethnique.
Et à 20h, Lucie.
On découvre les goûts de Luna. Elle était en stage à l'autre radio avec nous la semaine dernière. Et ce soir, à 20h, c'est sa discothèque.
Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette émission. On se dit à demain, même heure, même rendez-vous. Nous serons avec Côme Guillard, directeur territorial de l'urgence et du secourisme à la Croix-Rouge de la Mayenne. Et nous parlerons de l'accueil en hébergement d'urgence qui a été mis en place lors de la veille sociale renforcée. Prenez soin de vous et de ceux qui vous accompagnent pour ce premier jour de la semaine. Faites ce qu'il faut. Faites-le bien.
Tu sais, Mimi, quand je commence l'agité du local, j'aimerais que ça s'arrête jamais.